Vivre FM, podcast.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Recherche et Partage, une émission proposée, vous le savez maintenant, en partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Une émission dans laquelle nous vous présentons des projets de recherche soutenus par la FIRA, mais aussi une émission dans laquelle on vous donne des pistes de recherche pour que vous ayez envie, vous aussi, de proposer des projets, pourquoi pas. Il y a encore tant à faire dans le domaine du handicap, il ne sera jamais trop tard pour se lancer. Alors ce matin, de quoi allons-nous parler? Eh bien, le titre du projet sur lequel nos invités ont planché et planchent encore est « Communiquons ensemble, co-construction de l'espace communicatif multimodal entre personnes porteuses de trisomie 21 et personnes ordinaires ». Joli titre pour un projet, vous en conviendrez. Et oui, la personne ordinaire, commune, banale, celle qui n'a rien de l'extraordinaire personnalité des personnes porteuses de trisomie 21, va enfin pouvoir mettre un peu d'exceptionnel dans sa vie en communiquant plus et mieux avec celles et ceux qu'on appelle des personnes handicapées mentales et qui pourtant ont souvent quelques capacités bien supérieures aux nôtres. En dernière partie d'émission, nous aurons aussi le plaisir de parler un peu de l'OCIRP, l'Union d'organismes de prévoyance. Oui, je sais, dit comme ça, ça n'a pas l'air très glamour, mais nul doute que notre invité saura mettre du charme et de l'éclat dans ses propos. Recherche et partage, c'est une petite heure ensemble, en partenariat avec la FIRA, et en musique parfois, et c'est tout de suite sur Vivre FM. Et c'est parti pour Recherche et Partage, avec pour l'heure 5 invités, 5 bonnes raisons de rester à l'écoute de Vivre FM. Côté recherche, Marion Dohen, chercheuse à l'Université de Grenoble, maître de conférences au département Parole et Cognition des laboratoires GIPSA. Elle est accompagnée d'Amélie Rocher-Capellan, chargée de recherche au CNRS, elle aussi au département Parole et Cognition et co-responsable, scientifique du projet avec Marion. Côté associatif, nous accueillons Franck Lichard, Sophie Lafont et Sophie Escoffier pour l'association ARIST. Franck Lichard, on est le président, je vais y arriver. Bonjour à tous et à toutes. Alors je précise, côté recherche et côté association, c'est important parce que les projets soutenus par la FIRA incluent tous des scientifiques et puis des personnes impliquées localement, souvent au travers d'une association, auprès des personnes handicapées. En ce qui vous concerne, Sophie et Franck, je vais citer tout le monde, mais on va commencer avec Franck, l'association ARIST, association de recherche et d'insertion sociale des trisomiques 21. On peut peut-être entamer cette émission en disant un mot pour nos éditeurs qui ne connaîtraient pas ARIST, qui a pour mission, je crois, de changer le regard sur le handicap mental, notamment sur les personnes porteuses de trisomie 21.
Eh bien bonjour, merci de nous donner l'occasion effectivement de présenter l'association et nos partenariats notamment en matière de recherche. Alors l'ARIS est une association qui est implantée depuis 35 ans dans le département de l'Isère, aux alentours de Grenoble, avec un certain nombre de préoccupations, notamment un objectif qui consiste à favoriser les situations d'intégration des personnes porteuses de trisomie 21 ou de déficience intellectuelle, mais également d'accompagner leurs familles. Donc c'est une préoccupation à laquelle nous intéressons depuis un certain nombre d'années, mais pas uniquement, puisque la recherche a fait partie des préoccupations dès l'origine. Et à ce titre, nous nous sommes interrogés sur les freins qu'il fallait identifier et sur lesquels il fallait intervenir, notamment pour favoriser l'insertion sociale de ces personnes-là, au premier desquels on a identifié la communication.
Voilà, parce que vous le disiez à l'instant, la communication, c'est la base pour l'intégration sociale. Et c'est ça un peu l'idée forte sur laquelle on veut travailler. Comment vous êtes venus à entrer en contact, du coup, avec Marion et Amélie, qui sont là avec nous, chercheuses, pour les faire travailler, justement, sur ce projet? Ou est-ce que peut-être l'idée est venue plutôt du côté recherche? Comment ça s'est passé?
Alors, l'idée est venue du côté de recherche, mais disons que depuis un certain nombre d'années, l'ARIST a favorisé tous les programmes de recherche qui s'intéressaient à la trisomie 21. Et nous avons soutenu, alors de manière assez épisodique, un certain nombre de programmes. Et puis quand celui-ci est arrivé, bien entendu, on a sauté dessus et nous les avons accueillis avec grand plaisir.
Alors Marion, Amélie, quand ils vous ont sauté dessus, c'était pourquoi au juste? On l'a dit, vous êtes dans un département parole et cognition, ça parle peut-être pas à tout le monde. Est-ce qu'on peut en dire un mot aussi là-dessus, sur cet axe de recherche sur lequel vous travaillez? Marion, peut-être?
Donc Amélie et moi sommes toutes les deux chercheurs au département Parole et Cognition, donc du laboratoire GIPSA. Donc le principe de ce département, c'est de réunir des chercheurs venant de disciplines différentes qui vont toutes s'intéresser à un objet de recherche qui est la parole au sens large, donc la communication parlée, on va dire. Et donc on a des ingénieurs, des linguistes, des psychologues, donc des chercheurs d'un peu plusieurs disciplines qui travaillent ensemble pour mieux comprendre la parole. Donc avec Amélie, on s'intéresse surtout aux aspects moteurs dans la parole, mais aussi aux aspects multimodaux, c'est-à-dire qu'on communique non seulement, enfin pas uniquement par la parole, mais aussi par exemple avec les mains, par l'intermédiaire de la gestualité. Donc avec Amélie, il y a à peu près 2 ans, on avait vraiment envie aussi que notre recherche puisse avoir un côté un peu plus appliqué, et notamment pour des raisons personnelles aussi, on s'est intéressé plus particulièrement à la trisomie 21, et c'est là que on est rentré en contact avec l'ARIST pour leur proposer un projet de recherche sur l'étude de la communication des personnes porteuses de trisomie 21.
Alors on va évidemment rentrer dans le vif du sujet, mais ce qu'il est important de préciser, et c'est vrai que moi-même quand j'ai découvert le projet, on pense pas forcément effectivement que le trouble de la parole va être si important que ça chez les personnes porteuses de trisomie 21. Et vous, ça a été un petit peu le point de départ aussi de cette recherche, c'est de dire finalement il est parfois plus important que le déficit intellectuel, alors qu'on s'en rend peut-être moins compte.
Amélie. Je peux peut-être répondre du coup. Oui, effectivement, vous avez bien identifié le problème, c'est que souvent, en fait, les personnes avec trisomie 21, elles sont stigmatisées, en particulier dans notre société, à leur déficience intellectuelle. Parce que maintenant, on dit déficience intellectuelle, en fait, on dit plus handicap cognitif, ou voilà, ça change. Et alors que, forcément, quand on a des difficultés pour parler, pour communiquer, et qu'en plus les gens nous parlent pas parce qu'on est catalogué comme étant déficient intellectuel, ça aide pas à mieux parler et ça aide pas à mieux communiquer. Donc c'est aussi pour ça que, en fait, du fait de ces difficultés de parole et de la difficulté au niveau intellectuel, ça positionne la trisomie à l'intersection de différents domaines de recherche, et en particulier d'une autre qui, comme elle a dit Marion, va s'intéresser à la gestualité de la communication, donc la gestualité orofaciale et la gestualité manuelle. C'est pour ça qu'on parle de multimodalité, en fait.
Et ce qui est extrêmement important, puisque non seulement effectivement on se rend pas forcément compte de ça, mais qu'en plus on surévalue du coup cette déficience intellectuelle, et qu'on va nous-mêmes, personnes ordinaires, adopter des modes de comportement et de langage non seulement pas adaptés à la personne handicapée, mais en plus ça va augmenter le problème plutôt que de le résoudre. Alors, vous êtes parti comment? Vous êtes dit comment on va? Vous parliez en antenne tout à l'heure de 4 axes. Comment vous allez orienter? Vous avez orienté cette étude et cette recherche, Marion?
Alors l'idée principalement, donc on a découpé ce projet en 4 axes qui sont principalement qu'on peut intituler parler, gestualiser, interagir et échanger. Donc l'idée de l'axe parler, c'est de réussir à caractériser les difficultés de parole des personnes trisomiques. Donc on sait que notamment il y a une anatomie particulière du conduit vocal qui fait que ça va être plus difficile pour eux de parler, notamment de produire certains sons qui pour nous sont faciles à produire. Et donc l'idée de cet axe, c'est de réussir à caractériser leur parole avec nos outils de recherche fondamentales qu'on a l'habitude d'utiliser, qui sont des caractérisations des gestes articulatoires et des indices acoustiques qui sont produits pendant la parole. Donc l'idée là, ça va être à la fois de faire des mesures, mais aussi de recueillir des témoignages au travers de questionnaires notamment, qu'on est en train de mettre en place sur le web, où le but c'est que les gens qui sont tuteurs, parents, etc. d'une personne porteuse de trisomie 21 puissent témoigner sur les difficultés rencontrées au quotidien pour communiquer, que ça soit dans le cercle familial ou dans le cercle social élargi. Donc le deuxième axe, s'intéresse principalement à la gestualité, puisqu'il y a de nombreux travaux de recherche maintenant qui montrent que la gestualité est très liée à la communication. Et donc nous, on va essayer de s'y intéresser comme moyen à la fois de compenser les difficultés, puisqu'on sait que c'est possible, grâce à la gestualité, de compenser certaines difficultés de parole, et aussi d'utiliser la gestualité comme un moyen de stimuler la parole, que ce soit au niveau purement communicatif ou aussi au niveau un peu plus bas niveau, au niveau moteur, puisqu'on sait, enfin on pense en tout cas que voilà, le fait de bouger les mains permet de bouger aussi plus facilement les articulateurs qui servent à parler.
Ouais, c'est pas très radiophonique, mais les gens
voilà.
ont compris.
Je fais beaucoup de gestes, c'est pas très radiophonique, ouais, c'est sûr. Donc le troisième axe, ça va être celui de l'interaction, puisqu'on sait qu'on communique pas tout seul, on parle pas tout seul, on communique en général avec un ou plusieurs interlocuteurs, et que on sait aussi, la recherche a montré, qu'on s'adapte tout au cours de cette interaction. Donc on va avoir tendance, par exemple, à parler de plus en plus comme l'autre parle et l'autre aussi, pour arriver à un point où on va avoir des caractéristiques acoustiques et articulatoires, mais aussi on va se mettre à utiliser de plus en plus les mêmes mots, donc on va avoir un champ lexical de plus en plus proche, etc. Et donc évidemment on voit bien que c'est ces mécanismes d'adaptation aussi qu'il va falloir travailler d'autant plus avec une personne qui a des difficultés à communiquer. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir travailler cette adaptation dans un sens pour qu'elle devienne vraiment efficace et qu'elle soit efficace le plus rapidement possible. L'idée, c'est aussi d'avoir des témoignages des personnes trisomiques 21 sur leurs interactions au quotidien, pour voir aussi comment elles ressentent les mécanismes d'adaptation qui peuvent se faire. Puisque voilà, quand on parle avec eux, ils disent c'est des témoignages qu'on a eus. Oui, ils s'adaptent. Les gens essayent de s'adapter, mais ça sert pas forcément toujours. Ou alors ils laissent tomber trop rapidement. Et du coup, le gros problème pour les personnes trisomiques 21, c'est souvent que elles vont voir que les personnes en face d'elles ne les comprennent pas. Elles vont avoir deux réactions souvent. C'est ce qu'elles nous ont rapporté. Soit une réaction de frustration qui va aboutir à un énervement et à une rupture de la communication. Soit, au contraire, un repli sur soi. Parce que, comme ils n'y arrivent pas, ils vont se replier sur eux-mêmes et du coup, arrêter la communication et pas parvenir à dire ce qu'ils ont envie de dire.
Quatrième axe.
Voilà.
Pour que vous repreniez votre souffle.
Voilà. C'est l'axe qui va consister à échanger, puisque un des aspects qui nous tient particulièrement à cœur dans ce projet, c'est de réussir à transférer tout ce qui peut être mis en évidence dans la recherche, à la fois aux personnes handicapées, aux personnes de leur entourage, à leur famille, etc., et aussi aux professionnels qui les encadrent au quotidien, comme les orthophonistes, les psychomotriciens, par exemple.
C'est un des enjeux d'ailleurs des projets soutenus d'une façon générale par la FIRA, c'est de pouvoir échanger tous les résultats de la recherche et de les partager avec le plus grand nombre. Franck, je reviens vers vous de l'association Ariste. Marion parlait de témoignages qu'elles ont eus de personnes porteuses de trisomie 21. J'imagine que c'est là aussi que l'importance de l'association prend tout son sens. C'est des personnes qui sont des proches, des amis, des gens que vous fréquentez, j'imagine.
Oui, en effet, l'association a vraiment été intéressée par le projet et ses objectifs, dans la mesure où nous sommes une association familiale qui regroupe 350 adhérents sur l'agglomération grenobloise élargie et avec un grand nombre d'adolescents et d'adultes qui sont tout à fait disposés à participer à ce genre de recherche. Oui.
On se retrouve après un peu de musique et on va rentrer plus en détail et parler plus en détail de ces personnes. À tout de suite. De retour dans Recherche et Partage, toujours en compagnie de... Alors, je vais pas redire tous les titres de tout le monde. On a deux chercheuses, Marion et Amélie. On a trois personnes de l'association Ariste, Franck, Sophie et Sophie, qu'on n'a pas beaucoup entendu, que j'espère qu'on va entendre un petit peu plus cette fois-ci. Franck, je m'excuse, juste avant la pause, je vous ai un peu coupé la chic, on parlait de l'association Ariste, et notamment des personnes porteuses de trisomie 21 qui ont été partie intégrante, partie prenante, pièce maîtresse de ce projet. Comment ça s'est passé? Vous êtes tous proches, très proches de personnes porteuses de trisomie 21. Vous me disiez justement hors antenne que l'association s'était fondée avec des parents, des familles de ces personnes. Concrètement, comment s'est passé peut-être le choix, les décisions qui sont intervenues? Comment s'est passée la relation entre ces personnes et l'équipe de recherche?
L'Ariste, en effet, est une association familiale, avec un grand nombre de familles qui ont adressé leur enfant notamment au CAMS, au Centre d'Action Médico-Sociale Précoce, qui se trouve dans la banlieue grenobloise, donc pour les tout petites, 0 à 6 ans. Et mais bien au-delà, on les a retrouvés, pour certains d'entre eux, à l'ESAT, hein, établissement spécialisé d'aide au travail, qui reçoit un certain nombre de personnes porteuses de trisomie 21 et qui ont accepté de participer à cette recherche. Et il est vrai que très récemment, les chercheurs ont entrepris cette mise en relation avec l'établissement et ont commencé les premières interviews de nos jeunes.
Alors comment ça s'est passé? Parce que concrètement, vous avez tous donc une histoire, enfin un présent même, j'allais dire, avec ces personnes. Vous avez eu, vous, des demandes, c'est-à-dire à titre individuel, vous avez dit, ah ben tiens, moi oui, au niveau de la communication, c'est là-dessus que ça bloque, c'est là-dessus que j'aimerais bien interagir. Sophie, peut-être là-dessus.
Bonjour. Donc Sophie, moi je suis la maman d'une petite fille qui a 10 ans. Et effectivement, la communication a eu du mal à se mettre en place quand elle était toute petite. Elle était alors accompagnée au CAMS. Et on nous a proposé une méthode d'intervention qui s'appelle le macathon. Donc c'est un appui gestuel à la communication. Donc nous, en tant que parents, on est allés se former pendant 2 week-ends avec donc c'est un médecin qui fait ça sur Grenoble. Et donc au cours des 2 week-ends, on a appris des gestes simples. Donc un geste égale un mot, contrairement aux signes, à la langue des signes. Et quand on est rentré de la formation avec mon mari, on a proposé un signe pour désigner, donc Evalune est la troisième d'une fratrie de 3 enfants. On a désigné un signe pour son frère et un signe pour sa sœur. Et en fait, au bout de quelques minutes, elle s'était emparée des signes et elle a commencé à communiquer avec eux en les appelant par signe en fait. Donc oui, effectivement, nous on est très motivés et impliqués dans cette recherche. Et d'ailleurs, on en profite aujourd'hui pour remercier Marion et Amélie parce que c'est important. Voilà, qu'il y ait des gens qui se posent sur ce sujet-là qui est peut-être un peu mis de côté.
Finalement, voilà. La recherche est des deux côtés, en fait. On se rend compte que... Et puis d'ailleurs, côté recherche, Amélie est
voilà,
très concernée
aussi.
Voilà,
moi j'ai un peu aussi une double casquette, puisque j'ai ma sœur qui a une trisomie 21, qui a 2 ans de moins que moi, et donc j'ai grandi avec elle. J'ai vécu très proche son rejet à l'école, donc c'est pas aussi naïvement que j'oriente ma recherche maintenant vers la trisomie 21. Ma sœur a pas trop de problèmes d'articulation. Par contre, du coup, quand on a demandé à plusieurs personnes avec une trisomie 21 si elles avaient des difficultés pour se faire comprendre, et du coup, pour toutes, même celles qui parlent assez bien, ça revient, des fois j'ai des difficultés. Et ensuite, on leur a demandé, qu'est-ce que vous faites quand les gens vous comprennent pas? Donc, il y a des personnes il faut savoir qu'il y a des personnes avec trisomie qui parlent quasiment pas parce que la parole, c'est difficile. Et du coup, elles ont vraiment du mal à articuler. Du coup, elles ont aucun moyen de communication, ces personnes. Et elles s'énervent souvent parce que je pense que tout le monde ici, si on commence à parler et qu'on ne comprend pas, au bout d'un moment, soit s'énerver, soit laisser tomber. Et du coup, le deuxième ensemble de personnes dit qu'ils laissent tomber. Donc, ils disent, je me mets tout seul dans mon coin. Ils disent c'est vrai, quand on me comprend pas, ça me saoule et je laisse tomber. Ou ils disent parce que des fois je me replie sur moi-même, voilà, des fois, parce que quand on n'arrive pas à se faire comprendre, soit au niveau du signal produit, c'est-à-dire de l'articulation, soit au niveau des mots qu'on utilise et de la manière qu'on utilise, au bout d'un moment, c'est fatigant en fait. C'est un peu l'expérience qu'on vit quand on arrive dans un pays étranger et qu'on parle pas très bien la langue. On est très frustré parce que finalement on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent, et je pense qu'on peut tous se rapporter à soi-même cette expérience, quoi. Si on se retrouve dans un pays anglophone et qu'on parle mal anglais, et comment on fait? On fait des gestes avec nos mains, on montre, voilà.
Et là, alors on en est au début de la recherche, ça a commencé mai 2014, ça va durer jusqu'en 2016. On sent déjà l'importance, on a déjà des choses, on va dire, qui sont peut-être pas encore validées, mais qui vont être, peut-être pas révolutionnaires, mais qui vont aider dans cette communication, aider les parents et les personnes. Qu'est-ce qu'on peut déjà avancer, on va dire, un petit peu dans ce domaine?
Alors, il faut savoir qu'on n'est pas les premières à faire ça. Il y a une dame qui s'appelle Libby Cumin aux États-Unis qui a énormément travaillé là-dessus. C'est des idées qui commencent à arriver en France. Nous, notre objectif, c'est aussi d'arriver... Déjà, le gros enjeu, c'est de faire comprendre aux gens qu'utiliser la gestualité manuelle avec leurs enfants, c'est pas dangereux, ça va pas les empêcher de parler, au contraire. Et du coup, nous, c'est d'amener, depuis la recherche fondamentale, des arguments pour ça, et puis du coup, dans la recherche aussi empirique, puisqu'on est en train d'enregistrer des enfants dans un mémoire d'orthophonie avec deux étudiantes de Lyon. Donc, il y aura ce mémoire d'orthophonie qui sera disponible sur le web au printemps. Voilà. Ensuite, on est au début des enregistrements aussi avec les adultes, parce que par contre, c'est vrai que les mécanismes d'interaction ont été très peu étudiés. Et du coup, on espère pointer sur des comportements qui sont plus ou moins inhibiteurs. Ça a été un peu fait dans des études anglo-saxonnes, en particulier en Angleterre. Et voilà, donc il y a aussi un gros enjeu de communiquer la recherche qui a été faite en anglais, qui a été faite dans différents pays et qui n'est pas accessible aux parents et qui va mettre peut-être 20 ans pour arriver ici, si on ne fait pas l'effort, nous, chercheurs qui sommes en contact direct avec cette recherche, de la communiquer. Donc c'est aussi un des gros enjeux du projet, c'est pour ça qu'on a un site internet, etc.
Alors Amélie et Sophie, vous faisiez part d'expériences personnelles. Franck et l'autre, Sophie, vous aussi, vous vous retrouvez dans ce que disiez, vous avez les mêmes, on va dire, vous êtes confrontés aux mêmes problèmes de communication avec vos enfants ou vos proches, mais vos enfants en l'occurrence,
ouais. Oui, en effet. Enfin, pour ce qui me concerne, mon fils, effectivement, a des problématiques de communication qui s'expriment de façon, enfin, telle que Amélie les a décrites, notamment avec des positions de repli, lorsque effectivement la compréhension n'est pas au rendez-vous, avec des situations d'énervement lorsque l'expression pareil n'est pas au rendez-vous. Donc, si elles peuvent nous aider, ben, elles sont les bienvenues.
Sophie, un mot aussi, on vous a pas entendu là-dessus, vous êtes aussi maman
Oui, tout à fait, mon fils a aujourd'hui 21 ans, effectivement, alors il n'a pas forcément beaucoup de problèmes d'élocution, mais néanmoins, il y a des mots qui sont compliqués pour lui à exprimer, et du coup, il abandonne, il arrête de parler, et il nous dit, laisse tomber, c'est pas grave. Donc effectivement, on se retrouve bien dans ce schéma-là, quoi.
Vous avez, vous aussi, fait, comme nous racontait Sophie, des expériences ou des méthodes ou suivi d'autres chemins de formation pour essayer de communiquer différemment en attendant la recherche actuelle?
Non, parce que ça n'a pas été un problème pour Joris. Effectivement, comme la sœur d'Amélie, il n'a pas eu de problème d'élocution. Donc, on n'a pas eu besoin d'avoir recours à d'autres techniques que la parole, en fait.
C'était plus simple.
Même si on y met des gestes aussi, de manière plus symbolique.
Alors, Marion, qu'on n'a pas entendu pour l'instant dans cette deuxième partie, vous parliez tout à l'heure de tous ces axes, communiquer avec les... On a l'impression, nous, en tant que personnes ordinaires, que ça devrait être plutôt simple et plutôt évident. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, qu'on va mal interpréter et qu'on va surtout mal se positionner pour parler avec ces personnes porteuses de trisomie 21? Moi, j'aurais eu tendance à dire que ça aurait dû se faire peut-être plutôt simplement. Qu'est-ce qui bloque au niveau de nos comportements?
Bah après ça dépend des personnes, mais c'est vrai que bah c'est pas forcément facile quand on est en face de quelqu'un qu'on comprend pas de lui donner les moyens de se faire comprendre parce que alors, ça peut ne pas du tout partir d'une mauvaise intention c'est souvent le cas d'ailleurs, mais voilà, on va avoir tendance à faire répéter, mais ça va parfois augmenter la frustration de la personne ou la pousser à abandonner juste parce qu'elle y arrive pas. Que si elle-même n'a pas eu forcément, enfin ou d'autres moyens de communiquer, par exemple la gestualité ou autre, elle va pas l'utiliser spontanément. Et nous, peut-être qu'en tant que personne ordinaire, justement, un moyen de s'adapter, ça peut être aussi ça. Ça peut être de jouer sur cet aspect multimodal. Nous-mêmes, dans notre comportement de communication, en adoptant des gestes, etc., à réussir à déclencher aussi chez l'autre l'utilisation des gestes ou autre. Ça peut être aussi juste en prenant le temps de se familiariser. Aussi, ce qu'on a tendance à faire dans nos interactions sociales, c'est voilà, quand la personne n'arrive pas à exprimer, soit on va parler à sa place en lui demandant « Ah, c'est ça que tu veux dire, c'est ça que tu veux dire. »
Ce qu'on est en train de faire un peu aujourd'hui.
Voilà, exactement. Place, mais... Et soit on va avoir tendance à parler à sa place, soit on va avoir tendance à remplir le silence parce que on n'aime pas le silence, parce qu'on c'est générateur de malaise, etc. Surtout avec une personne qu'on connaît mal et tout. Alors que justement, souvent ce qu'il faut, c'est laisser le temps à la personne de réussir à dire ce qu'elle a besoin de dire, quel que soit le moyen par lequel elle va le faire. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes très facilement, et aussi prendre le temps de se familiariser. Si on remarque, au bout d'un moment, rien qu'en regardant des vidéos sur Internet, par exemple, de personnes trisomiques qui parlent de leur témoignage. Au début, on a du mal à les comprendre, et puis on se rend compte que, au fur et à mesure, si on prend le temps d'écouter, au bout de 3, 4, 5 minutes, déjà, on se rend compte qu'on les comprend vachement mieux. Voilà.
Espérons que c'est le cas des auditeurs aussi, qui peut-être plus on parle, plus ça, on comprend de quoi on parle. Il y a aussi une grosse interaction avec l'environnement social. Est-ce que ça, vous menez l'étude sur Grenoble, hein, vous êtes de cette région-là. Est-ce que ça va jouer énormément dans cette recherche? Et est-ce qu'on a des liens peut-être avec l'étranger, voir ce qui se passe aussi? Est-ce que ça change profondément la donne?
Alors, on a essayé dans le projet de développer des collaborations avec des collègues qu'on a à Montréal et puis aux États-Unis. Donc, on aimerait bien dans un deuxième temps, une fois qu'on aura bien établi notre procédure, notre manière d'enregistrer les gens, aller enregistrer des gens aussi dans d'autres, en particulier au Québec, parce que c'est vrai que c'est comme ils parlent la même langue, ça peut être aussi intéressant. Après, on a aussi un gros travail de bibliographie, et encore une fois, notre objectif, c'est aussi de décortiquer un peu tout ce travail qui a été fait dans les pays anglo-saxons, parce qu'ils ont, notamment en Angleterre, ils ont beaucoup travaillé sur comment on s'adresse aux personnes avec une déficience intellectuelle, parce qu'un des problèmes aussi qu'il y a, c'est que avec les personnes trisomiques, les gens souvent attendent qu'elles ont rien à dire, puisqu'ils partent du principe qu'elles sont déficientes intellectuelles, et du coup, ils les laissent même pas parler. Et c'est une des grosses limites, en fait.
Quoi, c'est pas ceux qui parlent le plus qui ont le plus à dire. Nous, on vous réécoute dans un instant, mais juste après un peu de musique sur Vivre FM. Communiquons ensemble, co-construction de l'espace communicatif multimodal entre personnes porteuses de trisomie 21 et personnes ordinaires. C'est ce dont on parle ce matin sur Vivre FM, aux côtés de Marion Dohen, d'Amélie Rocher-Capellan, de Sophie Lafont et Sophie Escoffier, et de Franck Lichat de l'association Ariste. Et nous a rejoint en plateau Jean-Manuel Cupiec, qui est directeur général adjoint de l'OCIRP. Nous y reviendrons en fin d'émission. Pour l'heure, un témoignage. Sophie, vous êtes donc maman, vous nous l'avez dit, d'une personne porteuse de trisomie 21. Et vous voyez concrètement, je veux dire, les résultats que peuvent avoir ces recherches appliquées dans la vie de tous les jours et pour communiquer avec son enfant.
Donc effectivement, aujourd'hui, donc ma fille a 10 ans et elle est extrêmement bavarde, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à l'arrêter de parler. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'importance aussi de passer par la gestualité, ça lui a permis d'être plus, de construire mieux ses phrases, c'est-à-dire de réfléchir à ce qu'elle va dire pour faire le geste et du coup de s'appliquer pour parler et dans la syntaxe et dans la construction. Et donc, je pense que ça lui a aussi permis d'accéder mieux, on va dire, à la lecture. Donc ça, c'est pour tous les parents qui écoutent l'émission, pour leur dire que de toute façon, il faut tout tenter et il faut essayer. Il y a des méthodes qui marchent et heureusement qu'on a des chercheurs qui sont là pour nous proposer des solutions.
Ouais, c'est pas du blabla, hein, ce qu'on dit. Et voilà. On y reviendra avec Jean-Manuel, parce que c'est vrai qu'on parle de recherche appliquée et on a des résultats très concrets, très pratiques dans la vie de tous les jours pour les personnes porteuses de trisomie 21, en ce qui nous concerne aujourd'hui. Amélie, Marion, un dernier mot aussi avec vous, côté recherche. La recherche, elle est en cours. Donc vous êtes actuellement en train de faire des interviews, des entretiens avec des personnes porteuses de trisomie 21. Vous en cherchez d'ailleurs, j'ai tout bêtement,
oui,
on pourrait faire un appel aussi.
Oui, on peut faire un appel. Bon, déjà, on a mis en place une première version du site web du projet, donc c'est www.communiquonsensemble.com. Donc c'est un site qui a été développé par des étudiants et donc on décrit bien le projet dessus. Puis notre objectif, c'est petit à petit d'alimenter ce site pour diffuser des informations autour du projet et aussi des liens vers les autres projets et les autres associations qui travaillent sur ces thématiques. Voilà. Ensuite, un de nos objectifs aussi, c'est d'impliquer les personnes avec trisomie dans la recherche. Et c'est difficile parce que c'est vrai qu'elles ont souvent été réduites au rôle de cobayes ou d'objets de la recherche. Et c'est souvent, enfin d'ailleurs, dans les entretiens qu'on a avec elles, c'est ce qu'elles nous disent. Ah bah ma mère, elle a dit que j'ai servi de cobaye, par exemple, voilà. Et nous, ce qu'on a envie de travailler avec eux et qu'elles arrivent à s'approprier, c'est que la recherche, elle est pour elles, et que quand elles viennent participer à une étude, elles ont le droit de recevoir des explications, elles ont le droit d'en demander, et elles ont le droit de revenir un an après, de dire quels étaient les résultats, qu'est-ce que ça m'apporte. Elles ont aussi le droit de nous dire, non, là, vous n'allez pas au bon endroit, et d'ailleurs, il y en a qui l'ont fait, en nous disant qu'elles, elles ne voulaient pas qu'on parle de trisomie 21, de mettre tout le monde dans le cadre trisomique, parce qu'elles sont toutes différentes entre elles, et c'est aussi un de nos enjeux à nous de regarder, plutôt que de faire des catégories comme on fait souvent en recherche, de regarder aussi le continuum entre la normalité entre guillemets et le handicap, et ce qui rejoint d'ailleurs la Convention des Nations Unies. Voilà.
Alors si les personnes veulent prendre contact avec vous, alors vous êtes sur la région de Grenoble, on l'a dit, donc physiquement, si les personnes veulent intervenir, c'est plutôt dans ce coin-là. Mais sur le site, là, par contre, les personnes peuvent aller remplir des questionnaires. C'est pour les personnes trisomiques. Hein, vous en parliez tout à l'heure dans le premier axe, parler. Marion, un mot sur ce questionnaire. Qu'est-ce que...
Voilà, alors le but de ce questionnaire, que n'importe qui peut remplir, qu'il soit parent, tuteur d'une personne porteuse de trisomie 21, enfant ou adulte, c'est un questionnaire où, en gros, il va falloir juste dire, c'est un questionnaire anonyme déjà, ça c'est important, à remplir directement sur le web, qu'on peut remplir en plusieurs fois, où il y a des questions sur comment se passe la communication, est-ce que la personne parle, est-ce qu'elle utilise des moyens alternatifs, est-ce que ça marche, qu'est-ce qui marche, voilà. Donc c'est anonyme et c'est remplissable donc sur le site www.communiquonsensemble.com.
Un dernier mot aussi avec vous, Franck Lichat, président de l'association ARIST. Donc on vous attendait beaucoup de la recherche, on l'a ressenti en tant que parent et puis en tant, j'allais dire, qu'être humain, on en attend tous beaucoup pour améliorer la vie de tout le monde. Comment vous voulez conclure un petit peu cette émission ?
Je voudrais déjà, dans un premier temps, remercier nos amis chercheurs de s'être préoccupés de ce thème en particulier. Dans la mesure où la communication pour nos personnes porteuses de trisomie 21, c'est un élément déterminant de l'insertion sociale notamment. Et nous avons vraiment besoin de progresser sur ce domaine-là en particulier. Alors, on est trop peu nombreux en France à stimuler la recherche. On a encore quelques-uns à l'accompagner. En tous les cas, les familles sont là aux côtés des chercheurs pour effectivement faire progresser ce domaine un petit peu trop délaissé. J'en profite également pour remercier le Vivre FM et bien entendu la FIRA qui nous a reçus sur ce projet très singulier pour nous.
Merci. En tout cas, restez avec nous en plateau. Hein. On termine pas vraiment. On va laisser juste un petit peu quand même la parole à Jean-Manuel Cupiec, le directeur général adjoint de l'OCIRP, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Alors, on parlait de la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Il y a des membres fondateurs de la FIRA, qui sont l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, l'APAGE, l'APF, l'Association des Paralysés de France, et la FEGAPI, la Fédération Nationale des Associations Gestionnaires au Service des Personnes Handicapées et Fragiles. On va y arriver. L'OCIRP n'est pas un des membres fondateurs, mais c'est un des amis de la fondation. Vous allez nous en dire un mot, Jean-Manuel, de pourquoi cette collaboration, pourquoi finalement l'OCIRP s'est intéressé de près au projet porté, soutenu par la FIRA.
Écoutez, merci, bonjour à toutes et à tous. Pourquoi on a financé la FIRA ? On a été, Philippe Calmette, qui est actuellement ARS Limousin, nous a demandé de venir en disant, écoutez, j'ai besoin de financement. Et vous savez que le financement, c'est quand même la chose importante quand on veut faire de la recherche. Et donc, on a été associés, nous, le CIRP, avec le Crédit Coopératif, la Massif et la Maïf, sur le fait d'être les parrains et de donner des subventions à cette Fondation Internationale Recherche Appliquée sur le Handicap pour justement promouvoir ces projets. Alors les projets, c'est très simple, on a un collège, un conseil d'administration. On n'est pas des scientifiques, nous, on est plutôt là pour, vérifier comment ça fonctionne. On a Axel Kahn comme président, et puis il y a un collège scientifique qui est là, qui effectivement évalue les projets et fait en sorte de les promouvoir, de les valider. Et donc ça fait plus de 5 ans maintenant que nous existons, nous sommes repartis. Nous avons la reconnaissance d'utilité publique, qui est important, et donc dans des mouvements important sur le handicap où aujourd'hui on sait bien qu'on est en crise économique, hein, personne ne s'en cache. Il faut pas baisser les bras, il faut continuer, il faut donner de l'argent parce que c'est important et c'est un point essentiel de dire la recherche elle avancera que si on est sur un chemin long. le chemin long, ça veut dire qu'il faut continuer de façon permanente, je dirais, à faire évoluer et faire en sorte que cette recherche soit efficace et qu'on lie les chercheurs au monde associatif.
Alors on le voit, c'est un engagement qui est complètement dans la continuité de ce que fait, de ce que promouvoit le CIRP. On va peut-être en dire aussi un tout petit mot quand même sur le CIRP elle-même, parce que ça parle pas forcément à tout le monde.
Non, donc le CIRP, on est assureur, hein, on est une union d'institutions de prévoyance, c'est un peu barbare, mais on est assureur et on s'occupe de risques lourds de la vie, c'est plutôt les décès, donc on verse des rentes, hein, des rentes de conjoints, des rentes éducation, puis des rentes handicap et des rentes en perte d'autonomie. Et quand on a créé ce produit sur les rentes handicap, on est face à un sujet terrible, c'est le décès d'un enfant ou vis-à-vis de ses parents, ou le décès des parents vis-à-vis d'un enfant handicapé. On dit, qu'est-ce qu'on fait demain? Et là, c'est quelque chose de difficile, et on s'est dit, ben il faut peut-être leur donner des moyens financiers pour qu'ils puissent vivre aussi après leurs parents. Et ça a été la vocation de l'OCIRP. Et puis, comme c'est un sujet éminemment tabou, on s'est dit, pour communiquer sur ça, faut faire autre chose. Alors, pour faire autre chose, faut faire quoi? Faut faire un prix, faut financer d'autres choses, pour que justement, on dise... cette participation, même si ce sujet est difficile, eh bien, c'est un sujet de la société et que tout le monde n'est pas égaux financièrement dans cette société, on le sait bien, mais que c'est des valeurs de solidarité humaine et de mutualisation qui font en sorte qu'on puisse avoir du financement. C'est comme ça que le CIRP s'est trouvé à financer un certain nombre de projets et on est très content de le faire.
Ils sont pas bêtes, hein, tout ça a du sens à le CIRP. Ils se disent, plutôt que de financer les problèmes en cas de décès, on va financer la recherche pour qu'il y en ait moins. C'est pas bête, ça se tient. En tout cas, le CIRP est donc un des partenaires, vous l'avez dit, avec la Maïf, la Massif, le Crédit Coopératif et le CASDEN, je crois, de la Banque Populaire.
Absolument.
Voilà, de la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, qui a un site internet, fira.org, qui est extrêmement bien fait, et notamment un centre ressources sur lequel il y a le partage et l'échange de tous les résultats des projets de recherche. Et donc, bientôt, en 2016 en tout cas, les résultats pour pouvoir mieux communiquer plus et mieux avec les personnes porteuses de trisomie 21 et avec les autres aussi. Merci à tous d'avoir été là ce matin sur Vivre FM. Je rappelle aussi où je donne, parce que je ne sais pas si on l'a déjà cité, le site de l'association Arist, arist.asso.fr, voilà, qu'on vous a présenté pendant cette émission. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci donc à tous, bon week-end, à l'écoute de Vivre FM, et puis à très bientôt pour de nouveaux projets avec la FIRA.